Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine économique dans lequel nous commentons l'actualité économique de la semaine. Et c'est toujours avec un invité. Mais d'abord, le sommaire. Le prix du ciment gris a pris de l'ascenseur à Kinshasa. Un sac de 50 kilos est passé de 15 dollars à 16, 18, voire 20 dollars américains à certains endroits. L'actualité de la semaine, c'était aussi l'accord entre l'ICCN et la République d'Allemagne pour une valeur de 6 millions d'euros. L'Allemagne veut certifier les minerais, mais aussi protéger la biodiversité et l'environnement dans la province du Katanga. 50 000 francs congolais par an, cet impôt sur les bénéfices exigés par le gouvernement congolais a mis en colère les petits commerçants Mbujimayi, mais également Kinshasa, où ces opérateurs économiques ont refusé de travailler en début de semaine. Dans ce magazine économique, nous aborderons également d'autres faits ayant marqué l'actualité économique de la semaine dans le pays. À la présentation de cette émission, Paul Matendo et François Kadima. Bonjour Paul.
Bonjour François, bonjour chers auditeurs.
Nous allons commenter l'actualité de la semaine économique avec Monsieur Leonid Mupepele Monti, c'est notre invité. Il est expert en mine et consultant dans certaines entreprises. Bonjour Monsieur Leonid.
Bonjour François, bonjour Paul.
Je pense avoir tout dit sur vous.
Oui, je pense qu'il ne faut pas plus.
Merci beaucoup.
Panorama économique, le dossier.
Nous allons commencer par la spéculation du prix du ciment gris à Kinshasa, Paul Matendo.
Oui François, un sac de ciment gris de 50 kilos est passé respectivement de 15, 16, 18, 20 dollars et même plus à force qu'on s'éloigne du centre-ville. Les demandeurs s'en plaignent et ne comprennent plus rien. Les revendeurs, quant à eux, pointent du doigt les importateurs et autres grossistes qui ont augmenté les prix dans un temps record. Pourtant, dans un communiqué, le ministre provincial des Finances, Économie, Commerce, Industrie et Petites et Moyennes Entreprises a fistigé ce qu'il a qualifié de la surchauffe injustifiée du prix du ciment gris sur le marché quinois. Jacques-Yves Molima.
Ces communiqués soulignent qu'aucun sac de ciment, que ce soit local ou importé, ne peut être vendu à plus de 13 500 francs, soit 15 dollars, auprès des distributeurs ou dépositaires. Et le ministre Guy Matondo de menacer les contrevenants qu'ils s'exposeraient aux peines prévues par la loi. Mais pour les revendeurs et autres, ils subissent plutôt la loi des distributeurs.
Nous étions surpris de voir le camion remorque vendre à 16 dollars et deux jours plus tard, ils ont majoré de 2 dollars, comme hier. Ils vendaient à 19 dollars et nous vendons à 20 dollars, juste pour 1 dollar. Nous baisserons.
Mais les importateurs disent n'avoir majoré que d'un dollar, c'est-à-dire qu'ils sont passés de 13,5 à 14,5 dollars et cela ne peut donner lieu aux spéculations. Ils jettent la balle côté distributeur. Mais pourquoi avoir majoré d'un dollar? La question reste posée. Par ailleurs, certains dépositaires trouvés sur le marché disent que l'exonération accordée aux importateurs aurait été levée. C'est ce qui serait à la base de cette majoration. De ce fait, un revendeur pense.
Silou et Sinat ne sont toujours pas en mesure de remplir le marché de Kinshasa. Il fallait encore continuer à exonérer l'importation jusqu'à ce que Silou et Sinat fonctionnent en plein régime pour imposer l'impôt. La pénurie est toujours là.
Entre-temps, le ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoyato, est en concertation depuis l'avant-midi de ce lundi 15 juillet avec les importateurs pour tenter de trouver une solution à ce sujet.
Reportage signé Jacques Moulima. Nous avons également noté la réaction de la cimenterie de Lukala au prix de ciment gris. Silou a déclaré n'avoir pas augmenté le prix du ciment et qu'elle n'est pas non plus à la base de la spéculation qui a entraîné l'augmentation du prix de ses produits. Le président du conseil d'administration de cette entreprise s'est exprimé ainsi à l'issue de la rencontre qu'il a eue avec le ministre de l'économie et commerce et son collègue de finances. Le PCA de la cimenterie de Lukala affirme que le prix du sac de ciment à l'usine reste celui fixé des communs d'accord avec le ministère de l'économie, soit 13,04 dollars américains. Nous allons écouter Jean-Baptiste Salopete dans ses propos recueillis par Paul Matendo.
La situation au niveau de la Silou n'a pas changé. La Silou continue à produire et vend au prix de 13,04. Donc, rien n'a pas changé au niveau de la silo, donc c'est de la pure spéculation. Et je crois que le ministère de l'économie est témoin. L'institut de prix que nous vendons vient du ministère de l'économie et ce sont les prix que nous n'avons jamais changés. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de prix qui a changé au niveau de la silo. Ce que je sais, c'est que le besoin de timah au Congo ou dans la partie ouest de la silo se trouve, la silo ne peut pas donner satisfaction. Je crois que ça, c'est le constat qui est déjà fait. Mais par rapport à notre production aujourd'hui, nous sommes au maximum. La silo produit au maximum et fonctionne à 100%.
Voilà, je rappelle que notre invité, l'invité des panoramas économiques de ce samedi, c'est Monsieur Léonide Moupépé Lemonti, il est expert en mine et consultant dans certaines entreprises. Alors, le prix du ciment augmente à Kinshasa, M. Moupépé, de 15, 16, 18 et 20 dollars dans certains endroits. Comment expliquer cette situation du moment où Silou, à travers son PCA, déclare avoir gardé le même prix, donc 13,4 dollars le sac de 50 kilos?
Ok, François. Moi, je crois que le problème réside tout simplement à la structure de prix, comme il l'a dit. Il faut étudier cette structure de prix et puis s'attaquer au mal à la racine. Lorsque vous prenez un pays comme l'Égypte, qui est un gros producteur de ciment dans notre continent, je crois qu'il figure même parmi les 10 ou 15 premiers producteurs de ciment au monde, vous allez vous rendre compte que les sacs de ciment à fin 2012 en Égypte coûtaient 4 dollars, les sacs de ciment de 50 kilos, alors qu'ici chez nous, comme vous le dites tout à l'heure, le PCA de Silou nous a révélé que le ciment qui sort de sa cimenterie, c'est déjà à 13,04 dollars. Donc, vous voyez la différence entre l'Égypte et le Congo, alors que nous avons toutes les matières premières ici, c'est-à-dire le calcaire, le bon, l'Égypte, on l'importe, mais au Katanga, on n'importe pas parce qu'on utilise l'Égypte métallurgique. Donc, normalement, on devrait pouvoir produire ces ciments à un coût beaucoup plus bas que ce qui est aujourd'hui. Quel est le problème? Le problème est que c'est au niveau du combustible que nous utilisons. On utilise le fioul, c'est-à-dire une espèce de pétrole lourd que nous utilisons pour pouvoir ce qu'on appelle procéder à la clinkerisation, c'est-à-dire la cuisson du calcaire pour le transformer à un stade intermédiaire avant d'arriver au ciment. C'est ça qu'on appelle le clinker. C'est le mélange du calcaire avec de l'argile une fois cuit dans un four, vous donne le clinker. Et le clinker, une fois qu'il est mélangé au gypse, ça donne du ciment. C'est cette opération-là de cuisson qui est l'opération la plus coûteuse et qui prend carrément autour de 40 à 50% de charges. Donc, il suffit aujourd'hui que ces combustibles, le fioul, soit remplacé par un combustible bon marché. Je prends l'exemple du gaz, le gaz naturel que nous produisons en Mwanda et qu'on brûle en pure perte. Parce que il n'y a pas on utilise une toute petite quantité pour produire de l'énergie électrique pour la ville de Mwanda, mais le reste des gaz est brûlé en pure perte. Vous pouvez aller à Mwanda, vous verrez des feux qui s'allument partout, il y a des puits d'extraction. Ce feu-là, c'est du gaz naturel que nous brûlons en pure perte. Alors qu'on aurait pu construire un gazoduc de Mwanda jusqu'à Kinshasa, même jusqu'à Kinshasa, ce gaz naturel aurait pu servir à la cuisson du calcaire, et donc à la place du fioul, on aurait pu utiliser le gaz naturel. En ce moment-là, le ciment à un prix beaucoup, beaucoup moins cher.
Ok, Paul. Justement, Silou, c'était un privé et le PCA dit que son entreprise ne peut pas remplir tous les marchés. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut relancer la cimenterie nationale?
Oui, on peut relancer la cimenterie nationale. Il y a un projet, notamment Siport, qui est en train de se construire au niveau de la province orientale. Dans tous les cas, toutes les cimenteries du Congo, quand vous prenez leur capacité installée, c'est autour de 800 000 tonnes. Le besoin actuel du Congo, c'est autour de 2 millions de tonnes. Donc, même si on relançait la capacité, la cimenterie nationale, je suppose que vous faites allusion à Sinat, cela ne suffira pas. Parce que déjà, les capacités installées, même si ces cimenteries tournaient à plein rendement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on produit autour de 400 000 tonnes par an, 400-500 000 tonnes, quand on arrive à 600 000 tonnes, c'est le full, hein, ça c'est la production nationale. Alors que la demande est au niveau de 2 millions hein, de tonnes. Donc il y a une bonne partie qui est compensée par des importations.
Je donc la demande est forte.
La demande est beaucoup plus forte que l'offre par rapport à ce que l'industrie nationale produit de la demande. Et puis en plus, et ça c'est important de le dire, on peut construire d'autres cimenteries, mais si le fonctionnement de ces cimenteries c'est sur les mêmes principes que Sinat et Silo, c'est-à-dire utiliser le fioul, on ne baissera pas le prix du ciment.
Ok, merci Monsieur Leonid Moupépélé. Nous allons prendre notre deuxième sujet de la semaine. Nous allons nous rendre donc à Lubumbashi pour parler de la maison de la coopération allemande. Elle a été inaugurée la semaine. Mais déjà, un accord a été signé entre l'Allemagne et la direction de l'ICCN pour un projet d'appui au parc national de Kundelungu. En quoi consiste concrètement ce projet? C'est l'une des questions posées par Denise Maio à l'ambassadeur de l'Allemagne en RDC, Wolfgang Manig. Écoutez sa réponse.
Ce sont des grands projets de secteur minière. Un de plus important, c'est la certification des matériaux. À partir du 24 de juillet, RDC a été le premier État dans les pays de conférence internationale de la région de Grand Lac qui a le droit d'avoir un certificat pour des produits miniers. C'est la précondition pour les vendre au marché mondial. Et l'autre domaine clé, c'est la biodiversité, la protection de l'environnement. C'est aussi un défi, pas seulement bilatéral, jamais c'est une question globale pour la protection du climat.
Mais on ne voit pas l'Allemagne présente dans les secteurs miniers ici, dans le sud du Katanga.
Nous n'avons pas des compagnies minières. Nous avons beaucoup d'industries, mais l'industrie, elle utilise les matériaux, soit le fer, le coltan, etc. Nous achetons ces choses sur le marché mondial. Naturellement, nos industries sont intéressées d'avoir des matériaux sans conflit. C'est la raison parce que nous sommes très actifs dans ces secteurs.
Est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez commencé par le Nord Katanga dans la certification des minerais? Est-ce que c'est le coltan qui intéresse particulièrement l'Allemagne?
Ce sont des coltans, mais aussi des cassitérites, des autres choses. Pour l'industrie allemande, par exemple, l'industrie automobile, ils ont besoin des coltans pour les navigateurs, toutes les choses électroniques maintenant. Le plus important, c'est ces minéraux utilisés dans l'industrie sans conflit.
Parlons de la protection de la biodiversité, de l'environnement. Est-ce qu'il y a des projets concrets que l'Allemagne va pouvoir exécuter ici?
Dans le parc Kundelungu, par exemple, ici, c'est le GIZ qui travaille avec l'administration du parc pour soutenir la protection du parc, pour aussi créer les conditions que ces parcs peuvent survivre. Et aussi, ça veut dire que les parcs peuvent être utilisés aussi pour les vues touristiques. Ça veut dire qu'on peut renforcer l'économie locale ici. Et l'autre côté, la coopération allemande assiste à une création d'un environnement économique pour les gens qui vivent dans les forêts, ou presque forêts, pour créer des emplois et des possibilités économiques pour ne pas penser de chasser dans le parc, par exemple.
L'Allemagne veut protéger la biodiversité et l'environnement dans le Katanga, mais aussi s'intéresse aux minerais en RDC, surtout au coltan et à la cassitérite pour l'industrie automobile, et les accords ont été signés. Mais la question de savoir quelle est la part de la population qui vit autour de toutes ces ressources minières.
Oui, la part de la population, ça il faut voir ça au travers d'abord du code minier. Faut pas que on pense aux effets de l'industrie minière comme étant une espèce de monde que les investisseurs ou les opérateurs miniers accorderaient à la population. Il y a toute une série d'activités que la population peut entreprendre pour pouvoir s'impliquer dans l'industrie minière. Je l'ai toujours dit, l'industrie minière est une industrie industrialisante. Pour fonctionner, elle a besoin d'un certain nombre d'intrants. Parmi ces intrants, je prends par exemple les réactifs chimiques. Tout ce qu'il faut comme acide, comme produits chimiques pour faire fonctionner. Quand vous allez au Katanga, vous voyez toutes ces cuves qui tournent avec des solutions, etc. Tout ça, c'est de la chimie. Ces produits chimiques-là peuvent être fabriqués chez nous. On peut créer des sociétés congolaises, parce que pour faire de l'acide sulfurique, il ne faut pas... Bon, on peut évidemment monter de grosses unités de production, mais on peut faire aussi de petites unités de production qui peuvent produire de l'acide et vendre.
Alors qui doit le créer, c'est ça?
Justement, et c'est à ces niveaux-là que le gouvernement devait mettre en place une structure qui étudie le fonctionnement de ces industries minières afin d'encourager la création de PME congolaises qui alimenter ces industries. Quand vous allez dans des pays comme la France, la Belgique, etc., le pays industrialisé, les États-Unis, vous prenez Boeing, vous prenez Airbus.
Airbus,
oui. Vous pensez que tout s'est fait par la grande compagnie Boeing. Il y a toute une série de sous-traitants qui fonctionnent pour alimenter Boeing, pour alimenter Airbus. Ça devrait se faire également comme ça chez nous. Par exemple, je prends l'exemple du calcaire, dont on utilise souvent, parce qu'on en a beaucoup besoin, dans l'industrie minière. Le calcaire, ça peut être préparé, par exemple, par des Congolais, qui, eux, font l'extraction du calcaire et le présentent. On se plaint que la croissance minière n'a pas d'impact sur la population. C'est tout simplement parce
alors,
que...
Alors, tout doit se passer en amont avant de signer les accords.
Je pense qu'il faut une réflexion nationale qui trace un cadre. Un cadre dans lequel les nationaux peuvent s'intégrer, créer un certain nombre d'avantages.
Vous pensez donc que l'exploitation des minerais, pour l'instant, ne se fait pas selon les normes requises?
Je ne dis pas que c'est un débat qu'on peut ouvrir et que ça peut être long. Mais je voudrais dire que l'exploitation minière, son impact sur l'économie du pays, son impact sur les populations est très limité fait que la plupart des intrants, la plupart des besoins de cette industrie minière sont assurés par l'extérieur, au lieu d'être assurés par les Congolais. Dès l'instant que on ouvre une mine. Allez, prenons le cas maintenant de Kibali Gold Mining qui est en train d'ouvrir.
Ouais.
Est-ce qu'on a réfléchi à tout ce dont Kibali Gold Mining aura besoin pour faire fonctionner son usine? Il y a des cyanures. La cyanure, c'est un produit chimique qu'on utilise en grande quantité, tout le temps, dans l'industrie aurifère. D'où viendra ces cyanures? Alors qu'on peut le fabriquer ici, on va l'importer. Donc je peux donner des tas d'exemples. Donc, actuellement, quand vous allez dans le Katanga, presque tout vient de la Zambie ou de l'Afrique du Sud. Donc ce sont eux qui profitent de la croissance minière. Et c'est comme ça qu'on se plaint que chez nous, il n'y a pas d'impact.
C'est M. Leonid Moufépélé qui est notre invité. Nous allons prendre une autre actualité de la semaine pour le Matendo.
Oui, François, les activités étaient paralysées mardi dans presque tous les marchés de la ville de Kinshasa. Les vendeurs n'ont pas ouvert leur petit commerce pour protester contre l'impôt forfaitaire sur le bénéfice exigé par le gouvernement. Ces derniers reviennent à 50 000 francs congolais l'an. François Kadima s'est rendu au marché central de Kinshasa.
À cause de cet impôt de 50 000 francs congolais qui doivent payer chaque année les opérateurs économiques patentés qui ont des étalages dans le marché, presque toutes les activités commerciales ont été paralysées ce mardi au marché central de Kinshasa. Des commerçants rencontrés sur place nous en donnent les raisons.
Nous sommes très inquiets pour cet impôt qui nous est imposé par le gouvernement. 50 000 francs congolais et 28 $ de patente, nous ne comprenons rien de ce qui se passe. Le capital que nous avons et la taxe nous imposée, en tout cas les choses deviennent très compliquées.
Nous achetons les marchandises et vendons, mais il n'y a pas de bénéfice. Cet impôt demandé est trop exorbitant. Les souliers que je vends ici ne m'ont jamais produit 50 000 francs congolais. Que l'on revoie cette histoire de 50 000.
Au syndicat national des vendeurs du Congo, l'on demande tout simplement au gouvernement de catégoriser les personnes qui doivent payer cet impôt. Qu'il est Lokofo et son président.
Nous avons écrit une lettre auprès de M. le ministre des Finances jusqu'aujourd'hui, sans réaction de sa part. Le directeur général de la Direction générale des impôts, le service qui est habilité à recouvrer cet impôt, ensemble avec lui, on s'était mis d'accord que les vendeurs qui ont des tables de travail dans les marchés ne devront pas souscrire à cet impôt. Contre toute attente, le même service a envoyé ses agents sur le terrain demandant aux vendeurs de payer ses impôts avant le 31 juillet de ce mois.
Signalons que cet impôt a été institué sur base de l'ordonnance loi numéro 13/00 du 23 février 2013 votée au Parlement et promulguée par le chef de l'État.
Toujours à propos de cet impôt forfaitaire sur les bénéfices, à Mbujimayi également, les activités ont été paralysées cette semaine au grand marché de Bakwadianga dans la commune de Dibindi. Les vendeurs ont arrêté leurs activités pour protester contre le recouvrement par les agents de la DPI. Ils estiment que 50 000 francs congolais est une somme exorbitante dans les contextes économiques actuels de la ville de Mbujimayi.
Voilà, monsieur Leonide Mupepele, vous avez subi le reportage sur cet impôt. Donc sur les bénéfices exigés par le gouvernement congolais qui a mis en colère les petits commerçants de la République. Votre commentaire.
Oui, on ne peut pas demander le beurre et l'argent du beurre. Et c'est ce que malheureusement la population congolaise fait quand s'adresse au gouvernement. Un pays doit fonctionner. Pour fonctionner, il faut que la population mette la main à la poche. Donc l'impôt est nécessaire. Maintenant, 50 000 francs congolais, c'est probablement excessif. Il faudrait, comme l'a dit, j'ai suivi dans vos reportages, catégoriser.
Mais le syndicat, oui, le syndicat des vendeurs.
Exactement. Il faut savoir que à l'époque coloniale, toute personne active, je dis bien toute personne active, il suffisait d'avoir, je pense, 18 ans. Disons d'être majeur, et vous payez l'impôt. Donc chacun payait l'impôt suivant ses revenus. Et on mettait au travail tout le monde. Et je vous assure que si on demandait, si on revenait à ce principe comme à l'époque coloniale, vous ne verrez plus les chégués. Parce que quelqu'un ne peut pas aller se mettre sur la route du moment qu'il sait qu'à la fin du mois, il doit payer, on ne va pas lui demander beaucoup, mais allez, disons 1000 francs congolais.
Mais c'est le montant.
Il faudra le payer. Donc moi, je ne suis pas contre l'impôt.
Oui.
Il faut que cet impôt soit payé et par tout le monde. À commencer, toute personne active, sauf évidemment les gens qui sont en retraite, mais sinon toute la population active, et les enfants évidemment, il faut les exclure, toute la population active doit payer. Sauf que le montant
est trop exorbitant.
Est peut-être exorbitant par rapport aux activités que ces gens exercent. Il faudrait réétudier la chose.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques nouvelles de la semaine en bref. En province orientale, suspension de perception de taxes et redevances dans les secteurs de mines. Le ministre provincial en charge de mines et forêts l'a déclaré lundi à Bounia au cours d'une interview accordée à notre correspondant sur place. D'après Paulin Oudiane, la perception de ces taxes était suspendue il y a 3 mois suite à la circulation des faux imprimés des valeurs dans ces secteurs. Il ajoute qu'à l'heure et à la maximisation de recettes.
Direction la province du Maniema qui a procédé au lancement mardi à Kinshasa de l'atelier sur la campagne agricole pour l'année 2013-2014. Cette province a reçu du gouvernement central un montant de 5 milliards de francs congolais destiné à la mise en œuvre du programme agricole provincial.
Et puis, le gouverneur du Kassai Oriental, donc a regagné Mbujimayi, c'est après avoir signé un protocole d'accord en cessant à Kinshasa entre lui et le ministre congolais de l'agriculture. Dans ce chapitre, l'accord stipule qu'un montant de 6 millions de dollars américains ont été accordés pour la saison agricole 2013-2014. Le gouverneur de province qui a affirmé qu'un premier montant de plus de 1 500 000 dollars américains est déjà disponible et peut immédiatement être décaissé.
Un mot sur l'initiative pour la transparence des industries extractives ithiennes. Le coordonnateur national des lithiers affirme qu'à ce jour, la RDC est sur la bonne voie pour remplir les conditions exigées par ithiennes. Après environ 3 mois de suspension, la RDC peut réintégrer ce processus. Le professeur Mac Doumba l'a déclaré ce mardi à Matadi lors de la clôture de la 7e table ronde des ministres provinciaux du plan de la RDC.
Merci Paul Matendo. Monsieur Louni de Mopepele, un commentaire à placer sur l'une ou l'autre actualité.
Oui, j'étais en train de penser notamment à l'agriculture. Il y a beaucoup d'argent qui semble être décaissé par le gouvernement pour pouvoir encourager l'agriculture.
C'est une très bonne chose. 6 millions pour le Kassai
Oriental. 5 milliards pour Kindu, j'ai suivi.
C'est beaucoup.
Il faut applaudir ces initiatives. Mais ce que je voudrais passer comme commentaire, c'est qu'il faut également penser à l'évacuation de cette production. Parce que c'est bien de produire, mais ce ne sont pas les paysans qui vont consommer ce produit, puisque pour leurs besoins, ils produisent assez pour leurs besoins, pour leur autosuffisance. Il faut maintenant penser à pouvoir évacuer sur le point de consommation, notamment les grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, etc. Et donc là, il faut également penser aux voies de communication. C'est le point, c'est le nœud gordien qui aujourd'hui étouffe ce secteur.
Matières premières.
Les négociants d'or éprouvent des difficultés pour vendre leurs produits sur le marché, et cela à cause de la baisse du prix de l'or sur le marché local et mondial. Le président de la coopérative des négociants d'or de l'Ituri Konori précise qu'un gramme d'or sec est passé de 60 à 38 dollars. Il a dit dans une rencontre samedi avec les opérateurs du secteur minier. Delphin Waïsala pour le reportage.
L'impact de la chute des prix de l'or sur les marchés mondiaux se fait déjà sentir en Ituri. Certains négociants qui avaient déjà acheté de l'or à un prix élevé ne savent pas écouler l'air colis pour ne pas travailler à perte. Selon le président de la coopérative des négociants d'or de l'Ituri Konori, la plupart de ces négociants préfèrent garder l'air colis. Mais ils s'inquiètent jusqu'à quand va perdurer cette situation. Lone Mamoukwa.
Les négociants achetaient de l'or à prix élevé, alors ils s'attendaient à ce que, comme d'habitude, ça fait des légères chutes de 5, 10, dollars, alors ils s'attendaient à ce que ça sera de telle manière, alors cette fois-ci ils sont vraiment surpris que les prix chutent continuellement. Aujourd'hui, de 50 à 45, de 45 à 40, de 40 à 30.
Certains commerçants qui importent des marchandises après avoir vendu leur colis d'or à l'étranger sont également bloqués dans leurs transactions. Atoukou Lomami Pierre, un opérateur économique à Bounia.
L'impact de la chute des prix de l'or a touché presque un grand nombre de commerçants. Quelqu'un qui avait acheté une quantité d'or à un prix, par exemple, d'un kilo à 50 000 dollars, il va revendre cet or là-bas à 35 000 le kilo. Automatiquement, son capital a sensiblement diminué. Il a fait un manque à gagner.
Pour prévenir cette situation, un économiste en Ituri recommande aux opérateurs économiques de diversifier leurs produits de vente dans leurs transactions et ne pas toujours investir dans alors pour éviter de tomber dans la faillite. Bounia, Delver, Waïsala, Radio Capi.
Monsieur Leonid Moupépélé, vous êtes expert ami. En tout cas, cette matière première de l'or, ça vous intéresse. Pourquoi cette baisse de l'or sur le marché mondial? Et on sent qu'elle a des répercussions déjà. Les négociants d'or éprouvent des difficultés pour vendre leurs produits sur le marché à Bounia.
Je voudrais insister sur le fait que le prix va continuer encore à baisser. Nous sommes aujourd'hui à 1200. Nous venons pratiquement de 2000. Hein.
Ouais.
Nous sommes aujourd'hui à 1200 dollars l'once. Et ça va encore continuer à baisser. Avant la fin de l'année, probablement, on sera à 1000 dollars l'once et ça baissera peut-être encore. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui, pendant la croissance, pendant la montée du prix de l'or, pensaient que en 2015, on sera autour de 5000 dollars l'once. Aujourd'hui, les tendances se sont inversées. Pourquoi? Parce que l'économie mondiale, aux États-Unis notamment, parce qu'en Europe, ce n'est pas tout à fait le cas, mais aux États-Unis, la tendance est à la reprise, d'où la confiance revient à l'industrie, à la production, c'est-à-dire que les gens préfèrent investir dans les actions, les obligations, tout ce qui est lié à l'industrialisation, plutôt que à acheter de l'or et à garder leurs économies à thésauriser au travers de l'or.
Monsieur Moufépélé Léonide, je rappelle que vous êtes expert à mine et consultant dans plusieurs entreprises. Nous allons nous quitter là dans Panorama économique pour ce samedi. Merci d'être venu répondre à ce rendez-vous.
Merci, merci Paul, merci François, ça a été un plaisir.
Voilà, c'est la fin de Panorama économique pour ce samedi sur Radio Capi. Merci de nous avoir suivis. La coordination était signée Nicole Ngaka. Paul Matendo et François Kadima étaient à la présentation. Merci et ciao.